en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je suis très sensible à le bonheur que m'a fait le Président Guillaume quand il a bien voulu me demander de venir prononcer une communication sur la délimitation des frontières maritimes de la France. J'y suis d'autant plus sensible que c'est l'un des tout premiers sujets dont j'ai été amené à m'occuper au début de ma carrière professionnelle au Quai d'Orsay. Affecté à la direction des affaires juridiques, où j'étais en charge du droit de la mer, j'ai eu la chance de participer à de nombreuses négociations de délimitation sous l'autorité exigeante, rigoureuse, éclairée et bienveillante du président Guillaume, qui avait succédé au regretté Guy de la Charrière à la tête de la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay. Entre 1981 et 1987, date de mon premier séjour à la DG, la délimitation des frontières maritimes de la France nous a acheminé le président Guillaume et moi-même, alors son modeste serviteur, au Canada, à Monaco, en Martinique et en Guadeloupe, en Dominique et même à Antigua et Barbuda, sans oublier Rome. Mais laissons là les souvenirs et venons-en au cœur du sujet. Mon propos s'efforcera de répondre à trois questions principales. Première question, quels sont les enjeux de la délimitation des frontières maritimes de la France? Deuxième question, quelles sont les règles de droit applicables? Et troisième question, quels sont les résultats obtenus à ce jour et les obstacles auxquels continue à se heurter la délimitation des frontières dans certains cas? Tout d'abord, les enjeux. Ils sont à la fois d'ordre géographique et juridique, si on considère les raisons de tels accords, et d'ordre économique et politique, si on en analyse les finalités. D'abord donc les enjeux géographiques et juridiques. Les enjeux géographiques sont évidents. Forte de ses départements d'outre-mer, de ses collectivités d'outre-mer, de ses terres australes et antarctiques, la France possède des côtes d'une longueur de trait de 18 450 km, dont 5 853 km pour la métropole. Son domaine maritime, si on inclut la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental, représente une superficie de plus de 10 millions de kilomètres carrés, dont 4 800 000 au large de la Polynésie, 1 700 000 au large des terres australes et antarctiques, et 1 364 000 autour de la Nouvelle-Calédonie. La France, là encore, si l'on englobe à la fois les espaces maritimes sur lesquels elle exerce sa pleine souveraineté, c'est-à-dire les eaux intérieures et la mer territoriale, et ceux sur lesquels elle exerce des droits souverains à des fins principalement économiques, plateau continental et zone économique, la France donc est bordée par près de 22 860 km de frontières maritimes avec 30 États, soit plus que tout autre pays dans le monde. Avec certains de ces États, nous avons d'ailleurs plusieurs frontières, dont 4 avec le Royaume-Uni, 2 avec l'Australie, sans oublier bien sûr l'Espagne. À ce jour, près de 16 350 km de frontières ont fait l'objet d'accords de délimitation maritime, soit bilatéraux, soit 72% du total. Les enjeux juridiques, maintenant, sont tout aussi manifestes avec le bouleversement qu'a connu le droit de la mer ces 60 dernières années, tout particulièrement entre les 4 conventions de Genève de 1958 et la convention de Montego Bay de 1982. La passation d'accords de délimitation maritime n'est certes pas un phénomène nouveau, comme l'atteste, par exemple, une vieille convention franco-britannique de 1839 pour délimiter les pêcheries d'huîtres dans la baie de Granville, ou encore une convention franco-italienne de 1908 sur la délimitation des zones de pêche, respectivement réservées aux pêcheurs français et italiens dans les eaux des Bouches de Bonifacio, dans les eaux comprises entre la Corse et la Sardaigne. Toutefois, pendant longtemps, alors que les espaces maritimes sur lesquels l'État exerçait sa souveraineté étaient fort restreints, le principal problème a consisté à se délimiter vers le large et à délimiter la zone sur laquelle les États riverains pouvaient revendiquer des droits exclusifs en matière de pêcherie côtière, surveiller le passage des navires de guerre ou réprimer des actes de contrebande. C'est en fait la réforme du droit de la mer qui devait rendre la plupart de ces anciens accords, qui portaient généralement sur des eaux de 3000 de large, insuffisants, sinon obsolètes, et qui devaient conduire les États, dont naturellement la France, à tracer systématiquement leurs frontières. Je rappellerai pour mémoire, et je serai très bref parce que je sais que vous avez eu une conférence sur ce point, que la réforme du droit de la mer s'est traduite par une extension considérable des espaces maritimes placés sous la souveraineté ou la juridiction des États côtiers. Consécration de la notion de plateau continental par la Convention de Genève de 1958, élargissement de la mer territoriale de 3 à 12 milles, apparition dans les années 1970 du concept de zone économique exclusive, consacré par la Convention de Montego Bay de 82, nouvelle définition de la limite extérieure du plateau continental qui peut, dans certains cas, s'étendre jusqu'à 350 000 marins des côtes, voire au-delà si l'on retient l'isobate de 2500 mètres. La France, pour sa part, a légiféré sur l'exploration. Et je voudrais, PowerPoint, s'il vous plaît, la première carte pour illustrer l'extension du domaine, celle d'avant ou celle d'après. Voilà, celle-ci. Sur cette carte, donc, on voit bien l'emprise croissante des États côtiers sur les espaces maritimes, avec donc en blanc, c'est ce que les États ne se sont pas appropriés. Donc les grands fonds marins, la haute mer, c'est ce qui est en blanc. Ce qui est en vert, ce sont les extensions possibles du plateau continental, et ce qu'il y a en bleu, ce sont les zones économiques exclusives de 200 000. Donc, je disais que la France a légiféré sur l'exploration et l'exploitation des ressources de son plateau dès 68, qu'elle a étendu sa mer territoriale de 3 à 12 000 en 1971 et qu'elle a créé des zones économiques au large de pratiquement toutes ses côtes en 1977-78, à l'exception de la Terre Adélie, pour des raisons juridiques liées au traité de Washington sur l'Antarctique et de la Méditerranée, du moins à l'époque, puisque depuis, une zone économique a été créée en 2012 en Méditerranée. C'est l'Espagne qui avait déclenché unilatéralement le processus en proclamant une zone de pêche dès 1999. Alors, cette extension considérable des espaces maritimes a entraîné deux conséquences immédiates sous l'angle de la délimitation des frontières. D'une part, elle a accru l'enjeu des délimitations, enjeu qui porte désormais souvent sur de grandes distances et couvre des superficies de l'ordre de milliers, de dizaines ou même de centaines de milliers de kilomètres carrés. D'autre part, elle a multiplié les cas de chevauchement dans lesquels il doit être procédé à une délimitation des eaux appartenant à deux États dont les côtes se font face. Passons maintenant aux enjeux économiques et politiques. Si l'on aborde non plus les causes, mais les finalités poursuivies par la conclusion d'accords de délimitation, celles-ci sont pour l'essentiel de deux ordres. D'abord, des finalités d'ordre économique. La nécessité de fournir à nos ressortissants qui désirent se livrer à l'exploration et à l'exploitation des ressources de la mer, qu'elles soient minérales ou biologiques, la sécurité juridique requise, en même temps que le besoin de contrôler les activités menées par des États tiers dans nos eaux supposent que soient définis avec le maximum de précision les espaces maritimes relevant de notre souveraineté ou de notre juridiction. À titre d'exemple, les forages pétroliers projetés dans la Manche et dans l'Atlantique à la fin des années 60 et au début des années 70, forages qui n'ont d'ailleurs pas tenu leurs promesses, avaient conduit la France à entreprendre des négociations avec l'Espagne et le Royaume-Uni en vue de délimiter nos plateaux continentaux respectifs. On ne parlait pas encore de zone économique à cette époque. De même, au début des années 80, la pratique ancestrale des pêcheurs martiniquais et guadeloupéens d'exercer leurs activités à proximité des côtes des pays antillais voisins dans des eaux qui appartenaient depuis toujours à la haute mer avant de passer du jour au lendemain sous leur juridiction nationale, allait nous conduire à négocier dans les meilleurs délais des accords de délimitation et à demander d'ailleurs simultanément à ce qui s'appelait alors la Communauté économique européenne de conclure des accords de pêche octroyant des droits d'accès réciproques dans les eaux des États concernés. Toujours dans le domaine de l'exploitation des ressources halieutiques, la modernisation du régime de la pêche dans la baie de Granville impliquait une délimitation préalable des eaux françaises et jerseyaises. Et puis, je pourrais citer encore le cas de Monaco. Là encore, Monaco souhaitait connaître exactement ses frontières pour pouvoir réaliser des emprises sur la mer, décidées à accroître les superficies constructibles. Sans oublier la construction du tunnel sous la Manche qui supposait que la frontière maritime entre la France et le Royaume-Uni dans le détroit du Pas-de-Calais fût délimitée avec précision. Donc finalité d'ordre économique, mais aussi finalité d'ordre politique. Finalité évidente quand nous concluons des accords avec des États voisins de nos départements et collectivités d'outre-mer. En effet, en passant de tels accords, ces États reconnaissent formellement la présence française, que ce soit dans la mer des Antilles, l'océan Pacifique ou l'océan Indien. Sous cet angle, la France s'est efforcée dans un premier temps de conclure dans ces régions des accords de délimitation avec des États jouant un rôle de leader régional ou dont le comportement était susceptible d'avoir un effet d'entraînement sur les autres États de la région. D'où l'importance des accords passés avec le Venezuela, l'île Maurice, le Brésil, l'Australie et Fidji au tout début des années 1980. Cette dimension politique, toujours d'actualité, revêtait une importance toute particulière à cette époque, car jusqu'en 1980, la clause coloniale qui figurait dans le projet de convention sur le droit de la mer, clause selon laquelle les puissances administrant des territoires non indépendants au sens où l'entendait l'ONU ne pourraient pas se prévaloir des droits procurés par la future convention. Et donc cette clause coloniale laissait planer une hypothèque fort sérieuse qui a été heureusement levée assez vite sur l'exercice de nos droits souverains dans les zones économiques créées au large des départements et territoires d'outre-mer. J'en arrive à la deuxième partie, le droit applicable. Tout d'abord, je passerai très vite sur quelques questions d'ordre terminologique, méthodique et procédural pour m'attacher davantage au fond du droit international. La terminologie des accords de délimitation conclus par la France varie, traités, conventions, accords, voire déclarations. En fait, comme vous le savez, le droit international n'est pas formaliste et peu importe les termes, sachant que ce qui importe, ce n'est pas la dénomination de l'acte, mais son contenu et la volonté des parties de se lier. Je dirais simplement qu'on réserve généralement le terme « accord » aux engagements de forme simplifiée, conclus au nom des gouvernements, et le terme « traité » aux engagements conclus en forme solennelle au nom des chefs d'État. Les espaces maritimes sont le plus souvent définis avec précision, mais ça n'a pas été toujours le cas. Parfois, on parlait d'espaces maritimes ou de lignes de délimitation maritime, et on restait volontairement dans le vague, notamment lorsque l'État avec lequel nous nous délimitions n'avait pas encore créé de zone économique, ce qui est aujourd'hui devenu extrêmement rare, ou bien alors lorsqu'on avait affaire à un État dont la législation interne ne nous paraissait pas franchement conforme au droit international. Par exemple, le Brésil, en 1980, qui revendiquait une mer territoriale de 200 000. Passons également sur les questions d'ordre méthodologique. Je dirais tout simplement que la ligne séparative retenue par l'accord est généralement tracée par une carte qui sert donc à visualiser la ligne qui a été définie dans le corps de l'accord. Donc cette carte est presque toujours annexée aux accords que nous concluons, mais elle revêt un caractère purement illustratif. La procédure d'entrée en vigueur varie. Certains accords, notamment au début des années 80, ont pu entrer en vigueur dès leur signature, avec Tonga, avec Sainte-Lucie, avec l'île Maurice, mais le plus souvent, l'entrée en vigueur est subordonnée à l'accomplissement d'une formalité postérieure à la signature, approbation ou ratification. Un point intéressant, en vertu de l'article 53 de la Constitution, nous estimons, en ce qui nous concerne, que nous n'avons d'obligation de saisir le Parlement que pour les seuls accords délimitant la mer territoriale qui s'écarteraient de l'équidistance. En effet, d'une part, la zone économique et le plateau continental ne peuvent pas être assimilés au territoire français au sens de l'article 53, car la France n'y exerce que des droits finalisés et non une souveraineté pleine et entière. D'autre part, une délimitation de la mer territoriale qui retiendrait la ligne d'équidistance ne ferait que constater ou entériner une situation préexistante prévue par la loi de 1971 sur la délimitation des eaux territoriales françaises. En d'autres termes, elle aurait un simple effet déclaratif et ne comporterait ni cession ni adjonction de territoire au sens de l'article 53. J'en arrive maintenant aux règles de fond applicables. Pour identifier ces règles de fond, il faut d'abord se référer à la Convention de Montego Bay du 10 décembre 82, signée et ratifiée par la France. Cette convention est relativement précise s'agissant de la délimitation des eaux territoriales. En effet, son article 15, qui reprend presque mot pour mot l'article 12 de la Convention de Genève de 58 sur la mer territoriale, retient, en principe, la ligne d'équidistance. C'est-à-dire la ligne dont tous les points sont équidistants des points les plus proches de la côte. Pour être plus précis, des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles on mesure la largeur de la mer territoriale de chacun des deux États. En revanche, cette convention de Montego Bay de 1982 est beaucoup plus floue à propos de la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face, car ces articles 74 et 83 ne donnent que quelques lignes directrices très générales. Quelques lignes directrices très générales, puisqu'il est simplement indiqué, ce qui ne va pas loin, que la délimitation doit être effectuée par voie d'accord, ça semble une évidence, conformément au droit international, ça semble un truisme, afin d'aboutir à une solution équitable, ce qui reste bien vague. Toute la difficulté consiste donc à identifier les facteurs pertinents pour parvenir à cette solution équitable. À cet égard, le droit international est très largement jurisprudentiel. 12 arrêts de la Cour internationale de justice et au moins autant de sentences arbitrales ont été rendues sur cette question depuis une cinquantaine d'années, sans oublier une décision du Tribunal international du droit de la mer de Hambourg. De l'arrêt de la Cour internationale de justice de 69 dans la célèbre affaire du plateau continental en mer du Nord à l'arrêt de 2014 dans l'affaire Chili-Pérou, la jurisprudence a sensiblement évolué, mais elle paraît aujourd'hui durablement stabilisée, non sans avoir connu quelques réelles incertitudes au début des années 80, au lendemain de l'adoption de la Convention de Montego Bay, en particulier avec les arrêts de la Cour de 1982 sur la délimitation du plateau continental Tunisie-Libye et de 1984 sur la délimitation des espaces maritimes entre le Canada et les États-Unis dans le Golfe du Maine. Alors pour résumer à grands traits cette évolution, on peut dire que dans une première phase, la jurisprudence a de plus en plus relativisé le principe de l'équidistance auquel la Convention de Genève de 58 avait réservé une place privilégiée. Dans son arrêt de 1969 sur le plateau continental en mer du Nord, je voudrais s'il vous plaît, PowerPoint, illustrer la mer du Nord, c'est avant je pense, c'est une des premières, voilà, c'est celle-ci. Donc on voit très bien ici ce qu'aurait donné l'équidistance du fait du caractère concave des côtes allemandes prises entre celles du Danemark et des Pays-Bas. La première ligne en pointillé qui forme une espèce de triangle. Et en jaune, donc, vous avez la ligne telle qu'elle a été agréé par les États après l'arrêt de la Cour internationale de justice. Donc c'est un cas intéressant où on voit que l'équidistance a été sensiblement corrigée au profit de l'Allemagne. Mais j'y reviendrai. Donc je disais que depuis cet arrêt de 1960, après cet arrêt de 69, la Cour devait affirmer que l'équidistance n'était pas une règle coutumière. Et la Cour s'est écartée de l'équidistance en mettant en avant des principes équitables. Les arrêts de la Cour de 82 et 84 ont relativisé encore davantage l'équidistance en estimant qu'il ne s'agissait ni d'un principe juridique, ni même d'une méthode de délimitation privilégiée par rapport à d'autres. Ce faisant, le droit de la délimitation risquait de se retrouver privé de tout appareil normatif. Une équité autonome qui ne serait plus conçue comme une obligation de résultat, mais comme une méthode autonome de délimitation, aurait introduit un fort élément d'imprévisibilité et de subjectivité dans les processus de délimitation, nuisant par là même à la cohérence et à la sécurité juridique. Le risque d'arbitraire, y compris de la part du juge, devenait sérieux. Mais la Cour a su parer habilement à ce risque à partir de 1985 et plus encore dans les années 90. Dans une seconde phase, en effet, la Cour, après avoir relativisé et presque oublié l'équidistance, va lui redonner une certaine place. En faisant valoir que l'équidistance n'est certes pas une règle de droit, mais une méthode de délimitation qui doit constituer un point de départ et qui doit être appliquée à titre préliminaire, quitte à la corriger et à la rectifier si elle débouche sur un résultat inéquitable en raison de certaines circonstances spéciales. Et ce retour à l'équidistance qui offre aux négociateurs comme au juge un critère simple, un critère géométrique et un critère objectif, a été amorcé avec l'arrêt de la Cour de 85 sur la délimitation du plateau continental Libye-Malte, et elle a été confirmée par l'arrêt de 93 délimitant les espaces maritimes entre le Danemark et la Norvège au large du Groenland et de l'île norvégienne de Jan Mayen. PowerPoint, s'il vous plaît. Voilà. Alors là, on voit très bien, n'est-ce pas, les revendications des deux parties. Si vous prenez donc la ligne qui est le plus à droite, c'était les revendications du Danemark, du Danemark-Groenland, donc qui revendiquait des espaces de 200 000. La Norvège, elle revendiquait l'équidistance, c'est-à-dire la ligne la plus à gauche entre l'île de Jan Mayen et le Groenland, et la ligne centrale en rouge, c'est la ligne de compromis dégagée par la Cour. Donc là, vous voyez un autre cas d'ajustement de la ligne d'équidistance. Dans l'affaire du plateau continental Mer du Nord, on avait ajusté l'équidistance en raison de la concavité des côtes allemandes. Ici, on l'a ajusté en raison de l'extrême disproportion entre la longueur des côtes de l'île de Jan Mayen d'un côté et des côtes du Groenland de l'autre. Et c'était d'ailleurs le même raisonnement qui avait conduit la Cour à ajuster la ligne d'équidistance dans l'affaire Malte-Libye. Donc, et la Cour recourt presque systématiquement, je dis presque systématiquement, à l'équidistance en tant que première étape du processus. Comme elle l'a souligné dans son arrêt de janvier 2014 à propos du différend Pérou-Chili, la Cour recourt à une méthode qui comporte trois étapes. Première étape, elle trace d'abord, sauf raison impérative contraire, une ligne d'équidistance provisoire en accordant une attention particulière aux points saillants les plus proches de la zone à délimiter. Deuxième étape, elle examine ensuite s'il existe des circonstances pertinentes pouvant justifier l'ajustement de cette ligne pour parvenir à un résultat équitable. Ce qui sera le cas lorsque l'équidistance provoque une amputation excessive des projections en mer de l'un ou l'autre des États concernés. Et encore une fois, cette amputation est presque toujours causée soit par le caractère concave des côtes, soit par la présence d'îles d'une taille très limitée, notamment d'îles qui sont situées à proximité d'une masse continentale. Prenez le cas des îles anglo-normandes ou le cas de Saint-Pierre et Miquelon. Enfin, dernière étape retenue par la Cour, l'étape dite du test, qui n'est d'ailleurs pas systématique. Mais il arrive que la Cour recherche si la ligne retenue, ligne ajustée ou non par rapport à l'équidistance, a pour effet de créer un effet de disproportion marquée entre les espaces maritimes attribués à chacune des parties dans la zone pertinente par rapport à la longueur de leur côte pertinente. Mais la Cour a souligné à maintes reprises que le calcul à ce stade ne vise pas à la précision. Il est arrivé de se faire une idée très globale du résultat sans essayer de l'exprimer en chiffres. Donc, pour résumer, l'équidistance apparaît comme une manière objective d'envisager l'équité. Elle constitue un point de départ dans la recherche de l'équité. On commence par examiner ce que la ligne d'équidistance va donner. Et puis, le cas échéant, on va déplacer cette ligne si elle aboutit à un résultat inéquitable du fait notamment de circonstances géographiques. Et d'ailleurs, telle est la pratique de la France qui a conclu à ce jour 37 accords de délimitation maritime dont plus des trois quarts retiennent la ligne d'équidistance. Deux ou trois remarques complémentaires sur le droit international applicable avant de passer à la dernière partie. Première remarque, la Cour a réunifié l'ensemble du droit des délimitations maritimes en estimant qu'il convenait d'aboutir à un résultat équitable quelle que soit la zone en cause, que ce soit le plateau continental aux atolls économiques ou la mer territoriale. Dans son arrêt Qatar-Bahreïn de 2000, la Cour a ainsi souligné que la règle équidistance circonstance spéciale applicable à la mer territoriale et la règle principes équitables circonstances pertinentes applicables au plateau continental et à la zone économique étaient étroitement liées l'une à l'autre. Donc, en procédant de la sorte, la Cour a réduit considérablement la portée de la différence de rédaction entre l'article 15 de la Convention de Montego Bay sur l'arbitre territorial, qui mentionne l'équidistance, et les articles 74 et 83 sur le plateau continental et la zone économique, qui ne font pas état de l'équidistance. Donc on peut dire que cette querelle entre équité et équidistance qui a passionné les négociateurs pendant la négociation de la Convention de Montego Bay, avec le recul du temps, cette querelle apparaît aujourd'hui largement comme une fausse querelle. Il est désormais acquis que la méthode de l'équidistance, quel que soit l'espace maritime en question, doit constituer un point de départ dans la recherche de l'équité. Deuxième remarque, très brièvement, les circonstances géographiques autres que l'équidistance sont très rarement prises en considération par la Cour. Par exemple, les concessions pétrolières, lorsqu'elles existent, n'ont pas à être prises en compte. De même, la présence des ressources halieutiques ou non n'est pas un facteur déterminant, et encore moins le développement économique des États concernés, parce que la richesse ou la pauvreté sont des facteurs conjoncturels, alors que la délimitation des frontières est une opération permanente qui ne peut dépendre des contingences économiques. J'ai dit que la France s'appuyait sur le droit international applicable. Il y a une exception concernant Monaco. Je peux avoir la carte sur la Méditerranée, s'il vous plaît. Un peu après. Voilà. Là, vous voyez un corridor un peu étrange, un corridor au large de la Principauté de Monaco qui s'arrête à égale distance des côtes continentales françaises et des côtes corses. Il va de soi qu'une telle solution s'explique par des considérations d'opportunité politique pour des raisons de bon voisinage entre la France et la Principauté de Monaco, mais qu'elle ne répond pas à des considérations d'ordre juridique. Et j'en arrive maintenant à la troisième et dernière partie de cet exposé. J'en pourrai revenir d'ailleurs plus en détail sur certains aspects du droit de la délimitation maritime, mais je veux respecter les 40 minutes qui m'ont été imparties. Donc j'en arrive à la dernière partie de mon exposé, les résultats obtenus et les obstacles persistants. Résultats obtenus, première carte s'il vous plaît, sur la Manche, l'Atlantique. Non, avant... Voilà. Donc, résultats obtenus, si l'on prend les côtes bordant la mer du Nord, la Manche et l'océan Atlantique, nous avons conclu 2 accords avec la Belgique, nous avons conclu 6 accords avec le Royaume-Uni, ça a demandé plus de 30 ans, mais on y est arrivé, et nous avons conclu 3 accords avec l'Espagne, si l'on inclut une convention de 59 relatif à la pêche dans la baie de la Bidassoa, dans la Bidassoa et dans la baie du Figuier, où il s'agit là d'eaux intérieures. En Méditerranée, maintenant, ces cartes sur la Méditerranée. Voilà. Alors, nous avons conclu en Méditerranée deux accords avec l'Italie, dont l'un ne figure pas sur cette carte parce qu'il est tout récent, mais il figure sur une autre carte. Voilà, c'est ça. Donc, nous avons conclu deux accords avec l'Italie, l'un de 1986 qui procède à la délimitation entre la Corse et la Sardaigne dans les Bouches de Bonifacio et qui ne porte que sur la mer territoriale, et un qui procède à une délimitation complète au large de la Corse, de la Sardaigne, de l'archipel toscan. Et comme vous le voyez, cet accord, la ligne retenue, retient l'équidistance, y compris entre la Corse et les petites îles de l'archipel toscan. Et nous avons bien évidemment cet accord avec Monaco que j'ai déjà souligné, qui encore une fois, répond à ces considérations d'opportunité politique plus qu'à des considérations de droit. En revanche, vous pouvez revenir à la carte antérieure. Voilà, comme vous le voyez, il n'y a aucun accord de délimitation maritime avec l'Espagne. Tout en plus, peut-on relever une pratique administrative franco-espagnole remontant à un vieil acte de délimitation de la frontière terrestre du 11 juillet 1868, selon laquelle les contrôles douaniers se sont effectués de part et d'autre d'un parallèle de 3000 nautiques de long partant de l'aplomb de la grotte Cava Foradada qui marque le point d'aboutissement de la frontière terrestre. Passons maintenant aux collectivités d'outre-mer. Je veux avoir la carte sur les Antilles et Caraïbes, s'il vous plaît. C'est peut-être... Non, avant, je pense. Attendez. Non, après, voilà. Non, après, après l'Italie, il faudrait revenir dans l'autre sens. Encore après. Voilà. Non. Alors ça, oui. Ici, donc, puisqu'on parle du continent américain, vous avez la délimitation de la zone économique française au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui revêt également la forme d'un corridor. C'est le résultat d'une sentence arbitrale rendue en 1992. Comme vous voyez, le résultat est un peu étrange, puisque vous avez un corridor de 200 000 nautiques, mais d'une largeur de 10 000 nautiques, soit 17 kilomètres. C'est le résultat d'une sentence arbitrale, puisque nous n'étions pas parvenus à nous mettre d'accord avec le Canada. Donc, une forte, très forte dérogation par rapport à l'équidistance. Carte suivante. Alors, Oui, c'est ça. Alors là, vous voyez, donc, dans les Caraïbes et dans les Antilles, nous nous sommes délimités avec le Brésil. Nous ne nous sommes pas encore délimités avec le Suriname, mais ça ne devrait pas tarder. Nous avons un accord avec Sainte-Lucie, qui est au sud de la Martinique. Nous avons un accord avec le Venezuela à propos d'un tout petit îlot qui est l'îlot d'Aves, qui apparaît à l'extrémité gauche de cette carte et qui déroge un peu en notre faveur à l'équidistance. Et surtout, nous avons un accord très intéressant avec la Dominique. Et là, vous voyez également la Dominique, donc c'est l'île comprise entre la Guadeloupe au nord et la Martinique au sud. Et vous voyez un corridor. Et un corridor qui donne 200 000 de zones économiques à la Dominique. Et là, nous avons dû corriger de façon très sensible l'équidistance, parce que sinon, la Dominique se serait retrouvée enclavée dans les eaux françaises du fait de ses côtes concaves, cette concavité étant particulièrement prononcée en raison de la presqu'île de la Caravelle au sud et en raison de l'île de la Désirade et de la Marie-Galante au nord. En revanche, nous n'avons pas conclu d'accord avec Antigua et Barbuda et nous venons de signer un accord avec les Néerlandais à propos de Sint-Martin-Saint-Martin. Dans l'océan Indien, carte suivante. Alors, dans l'océan Indien, nous nous sommes délimités au large de la Réunion, avec l'île Maurice et avec Madagascar. Nous nous sommes également délimités avec les Seychelles, au large de l'archipel des Glorieuses, et nous nous sommes délimités au large des Kerguelen, avec l'Australie. En Nouvelle-Calédonie, carte suivante, voilà, Nouvelle-Calédonie, nous avons conclu des accords avec trois de nos quatre voisins, avec l'Australie, c'est une immense ligne de délimitation, au nord, à l'ouest, pardon, l'Australie à l'ouest et au sud, avec les îles Salomon au nord-ouest et avec Fidji au sud-est. Il reste à nous délimiter, comme vous le voyez, avec le Vanuatu, l'ex-Nouvelles-Hébrides, auquel nous oppose un contentieux territorial. En ce qui concerne Wallis et Futuna, carte suivante, est-ce que c'est celle-ci ? Non, la carte suivante, encore. Allez-y, encore une autre, voilà. Alors là, vous avez à la fois Wallis et Futuna et la Polynésie française. En ce qui concerne Wallis et Futuna, nous nous sommes délimités avec presque tous nos voisins, avec le Tuvalu au nord, avec la Nouvelle-Zélande au nord-est à propos de l'île de Tokelau, avec Fidji à l'ouest et au sud, et avec le royaume de Tonga au sud-est. Il reste donc une délimitation à opérer avec les îles Samoa. Si je prends la droite de cette carte, avec la Polynésie française, nous nous sommes délimités avec nos trois voisins, avec les îles Cook, qui sont des dépendances de la Nouvelle-Zélande à l'ouest, avec Kiribati au nord-ouest, et avec le Royaume-Uni, à propos des îles Pitcairn, à l'est. Donc, pour conclure, je dirais qu'une fois que l'accord avec la Suriname sera signé, il ne restera que deux voisins avec lesquels nous aurons encore à passer des accords de délimitation ne soulevant a priori aucune difficulté juridique ni politique particulière. Les îles Samoa dans l'océan Pacifique et Saint-Christophe et Nieves dans les Caraïbes. Et j'en arrive au dernier point, les obstacles auxquels peuvent se heurter la délimitation des frontières maritimes. Je passerai très vite sur les difficultés d'ordre technique. Par exemple, lorsque les cartes de deux pays voisins ne calculent pas de la même manière la laisse de basse mer. C'était le cas de la France et de la Belgique. Et donc, dans un cas, des hauts fonds découvrants apparaissaient et pas dans l'autre, parce que le calcul de la laisse de basse mer n'était pas le même dans les deux cas. Mais je dirais qu'avec un peu de bonne volonté, on peut surmonter ces difficultés d'ordre technique. Et c'est ce qui a été fait avec la Belgique au début des années 90. En substance, on a partagé la poire en deux. Une autre difficulté technique, lorsque le tracé d'une frontière maritime peut dépendre d'une autre frontière dont elle constitue le prolongement, et c'est ainsi qu'il nous était difficile de conclure un accord avec Saint-Christophe et Nieves dans les Antilles, tant que la négociation concernant les Antilles néerlandaises n'était pas achevée. Obstacles juridiques beaucoup plus nombreux et beaucoup plus difficiles à surmonter que les précédents. J'en recenserai trois types différents. Premier cas de figure, à propos d'États dont les côtes sont adjacentes, le point de départ de la frontière peut être contesté du fait d'une incertitude ou d'un désaccord sur le point d'aboutissement exact de la frontière terrestre. C'est ainsi que la délimitation maritime avec le Brésil supposait que les travaux de la commission mixte franco-brésilienne pour la délimitation des frontières le long de l'Oyapock aient été menés à leur terme. Un différent très, très intéressant, c'est le différent territorial entre la France et les Pays-Bas sur l'appartenance de l'étang aux huîtres qui borne le littoral le long de la côte de l'île de Saint-Martin et qui marque le point d'aboutissement de la frontière terrestre entre les deux pays à l'est. Eh bien, pour surmonter ce différend, les parties ont reporté vers le large le point de départ de la frontière maritime, là où l'étang aux huîtres cesse de produire ses effets pour ne pas préjuger la solution du litige. Deuxième cas de figure, ça arrive lorsqu'un État revendique une ligne séparative différente pour le plateau continental et la zone économique, ce que, en principe, nous n'admettons pas car la zone économique forme un tout. Il peut bien sûr se produire au-delà de 200 000 qu'il y ait une limite spécifique pour le plateau. Mais dans les 200 000, nous estimons que les deux limites doivent coïncider. Le Royaume-Uni, si je peux revenir sur la carte Manche-Océan, une des premières, le Royaume-Uni a fini par, un peu avant, oui, celle d'avant encore, voilà. Le Royaume-Uni a fini par l'admettre en 2011 et il a donc admis que la limite qui avait été tracée par le tribunal arbitral en 1977 au large des îles anglo-normandes et au large d'Ouessant et des Sorlingues que cette limite valait aussi bien pour le plateau continental que pour la zone économique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la carte est parue avant, mais aujourd'hui, cette zone en pointillé qui marquait la zone revendiquée par le Royaume-Uni en matière de zone économique n'existe plus, et donc le Royaume-Uni a adhéré à notre thèse en 2011 et admet que ce qui valait pour le plateau continental valait aussi pour la zone économique. En revanche, plus au sud, dans le golfe de Gascogne, vous voyez que l'Espagne continue à revendiquer pour la zone économique une limite qui est très au nord de celle qui a été retenue en 1974 pour le plateau continental. Troisième et dernier cas de figure, c'est bien évidemment le cas où il y a un désaccord sur le contenu de la solution équitable. Et dans ce cas-là, la persistance d'un différend sur la nécessité ou non de déroger à l'équidistance pour parvenir à l'équité, et dans l'affirmatif sur l'ampleur de cette dérogation, eh bien, la persistance d'un tel contentieux pourra déboucher sur un compromis d'arbitrage, ou bien, en ce qui nous concerne, sur un recours conjoint à la Cour internationale de justice. Pour le moment, nous ne l'avons pas encore fait, enfin la Cour, on a recouru à l'arbitrage à deux reprises avec le Canada et le Royaume-Uni au sujet des îles anglo-normandes. Peut-être qu'un jour, avec l'Espagne, nous devrons recourir à l'arbitrage ou bien nous devrons saisir la Cour internationale d'un commun accord. Et je termine avec les obstacles politiques. Les obstacles politiques qui peuvent retarder durablement ou même empêcher indéfiniment la conclusion d'un accord de délimitation. Tout d'abord, cela peut résulter du manque de moyens ou de volonté de notre partenaire. Manque de moyens avec l'absence d'expertise technique, des petits États du Pacifique comme Tonga ou Tuvalu, avec lesquels on s'est mis d'accord sur le principe de l'équidistance en remettant à plus tard le calcul des coordonnées. Ça peut aussi résulter du changement de statut de la collectivité territoriale étrangère concernée, le cas par exemple des Antilles néerlandaises. Cela peut résulter de troubles politiques, par exemple au Suriname. Cela peut résulter du silence de l'État voisin, par exemple Antigua et Barbuda, que nous avons sollicité il y a près de 30 ans. Deuxième scénario, alors là c'est encore beaucoup plus grave, c'est le cas où la négociation est franchement impossible du fait des revendications formulées par l'État voisin sur des territoires terrestres relevant de la souveraineté française et au large desquels se situent les espaces maritimes à délimiter. C'est le cas de Madagascar, si vous voyez, carte sur l'océan Indien, c'est le cas de Madagascar pour les îles éparses du canal de Mozambique et des Glorieuses, c'est le cas de l'Union des Comores pour Mayotte, c'est le cas de l'île Maurice pour Tromelin et enfin du Vanuatu pour les îles Matthew et Hunter qui sont des dépendances de la Nouvelle-Calédonie. Néanmoins, avec Maurice, nous avons pu conclure un accord au large de la Réunion jusqu'au point équidistant de ces deux îles et de Tromelin qui a été ainsi disjoint de la négociation. Lorsqu'il y a un tel différend territorial entre la France et l'un de ses voisins, eh bien, un État tiers peut également refuser de négocier avec nous pour des raisons diplomatiques ou des raisons liées à la solidarité régionale. Par exemple, le Mozambique, qui ne veut pas négocier avec nous dans les îles, au large des îles du canal de Délice d'Éparse, du canal de Mozambique, pour ne pas faire de peine à Madagascar. Donc, en conclusion, va-t-on vers une nouvelle frontière à la fois juridique et symbolique ? Oui, en un sens. Oui, avec l'extension croissante du plateau continental au-delà de 200 000. Juste un mot, quatre décrets en date du 25 septembre 2015 fixent les coordonnées géographiques des limites extérieures du plateau continental français au large de la Guyane, des îles Kerguelen, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Nouvelle-Calédonie pour une extension respective de 72 000, 423 000, 8 000 et 76 000 km². D'autres demandes d'extension portent sur la Réunion, sur Saint-Paul et Amsterdam, sur l'archipel des Crozets, sur bientôt une demande sur la Polynésie et enfin une demande d'extension concernant Saint-Pierre et Miquelon, mais qui se heurte à la très ferme objection du Canada et qui ne peut donc pas être instruite par les Nations Unies. Voilà, j'ai été déjà un peu trop long, je vais m'arrêter là. Je dirais qu'en dépit des 37 accords déjà conclus, dont deux doivent encore entrer en vigueur, eh bien la délimitation des frontières maritimes a encore de beaux jours devant elle, ce qui ne peut être que pain béni pour les diplomates et les juristes, sachant que le plus difficile reste devant nous, en tout cas pour les juristes qui ont un goût prononcé pour les questions internationales, sachant que cette conférence a peut-être illustré le fait que le droit international est sans doute la dernière des sciences et le premier des beaux-arts, en tout cas le droit de la délimitation des frontières maritimes. Merci beaucoup.
Bien, monsieur l'ambassadeur, merci infiniment de cet exposé qui nous a promené de la Cour internationale de justice à des îlots déserts, en passant par des délimitations faciles et d'autres difficiles, et qui nous a montré l'importance pour la France de son domaine maritime. Et je vais maintenant donner la parole à ceux de mes confrères qui souhaitent vous poser des questions auxquelles vous serez amené à répondre une par une au fur et à mesure que ces questions vous seront adressées. Et je donne d'abord la parole à M. Pitt.
Merci, M. le Président. Je veux trahir un secret de la conversation privée avec mon voisin qui me dit qu'il y a du travail pour les diplomates encore, mais aussi pour les géographes. Et c'est vrai que peut-être qu'on pourrait tenir compte aussi des réalités géographiques dans ces délimitations et pas seulement de faire de la topographie et des mathématiques. Alors ma question, si vous me permettez de sortir du terrain strictement juridique, touche un peu à l'économie et rejoint celle de plus générale de l'économie générale des DOM-TOM et de leur place dans notre économie nationale ou dans celle d'autres pays comme l'Angleterre qui ont aussi des territoires éloignés de la mère patrie. Donc la France se glorifie toujours d'avoir une immense zone économique exclusive. Finalement, ma question, est-ce que le bilan, mais peut-être ça dépasse vos interrogations et vos compétences, est-ce que le bilan économique de ces possessions, et en particulier des zones économiques exclusives, est réellement positif ou est-ce qu'au contraire, la surveillance et la protection de ces immenses espaces maritimes ne nous coûtent-elles pas beaucoup plus cher qu'elles ne nous rapportent dans l'état actuel des choses? Parce que vous avez évoqué très brièvement la question du Qatar et de Bahreïn, je comprends que là, effectivement, il y a un centimètre carré peut avoir des conséquences gigantesques compte tenu de ce qu'il y a sous le plateau continental. En ce qui concerne Wallis et Futuna, je ne suis pas certain que nous ayons des trésors cachés sous la mer. Donc ma question touche un peu, parce que souvent lorsqu'on évoque le bilan économique de nos possessions extérieures, de nos départements et territoires d'outre-mer, on dit « ah oui, mais si on a un tout petit doute, on dit « mais attention, nous avons des zones économiques exclusives gigantesques ». Oui, mais qu'en fait-on ?
Monsieur l'ambassadeur.
Je peux répondre debout aussi, comme ça je ferai face à l'auteur de la question. D'abord, une remarque, parce que vous avez parlé de la géographie, on en tient le plus grand compte. On en tient le plus grand compte puisque la délimitation des frontières maritimes s'appuie principalement sur des considérations d'ordre géographique. C'est la terre qui domine la mer. Il ne s'agit pas, lorsqu'on délimite une zone, et la Cour l'a dit, de refaire la géographie. En d'autres termes, l'équité n'est pas l'égalité. L'équité s'appuie sur la géographie et s'appuie notamment sur la configuration des côtes et sur la longueur des côtes. Premier point. Donc, peu importe l'étendue du territoire terrestre, effectivement, mais les côtes jouent un rôle absolument fondamental pour calculer la ligne de délimitation maritime. Et si on corrige parfois l'équidistance, c'est également pour des raisons géographiques, pour des particularités géographiques, je dirais, non essentielles, qui auraient pour effet de faire dévier la ligne d'équidistance d'une manière qui serait inéquitable. Donc, les géographes sont étroitement associés à tous les accords de délimitation, et en l'occurrence, le service géographique du Quai d'Orsay, qui travaille la main dans la main avec le CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine basé à Brest. Donc ça, je voulais faire cette mise au point, parce qu'on ne fait pas du droit en chambre, on s'appuie sur les réalités géographiques. En ce qui concerne le bilan économique, bien évidemment, je suis dans l'incapacité de vous donner des chiffres, et c'est vrai que parfois nos espoirs ont été déçus, comme je l'ai dit. Dans le golfe de Gascogne, on s'attendait à trouver des puits de pétrole, on ne les a pas trouvés. En Méditerranée, pour le moment, on n'a pas trouvé grand-chose. Et d'ailleurs, même si on trouvait des choses, il y aurait des écologistes qui aussitôt s'opposeraient à toute exploitation. D'ailleurs, c'est un point de vue qui nous oppose aux Espagnols sur la délimitation des espaces maritimes en Méditerranée. En revanche, dans le domaine de la pêche, les enjeux peut-être, peuvent être très importants. Dans le domaine de la baie de Granville, par exemple, prenons la baie de Granville. Dans la baie de Granville, on a dû moderniser au début des années 2000 tout le régime de la pêche pour permettre aux pêcheurs bretons et normands de continuer à pêcher dans ce qu'ils appelaient la mer commune, c'est-à-dire en gros l'espace maritime qui est situé au sud et à l'est de Jersey. Donc on a redéfini la mer commune, le régime applicable à la mer commune, pour tenir compte des nouvelles données du droit international. Mais je peux vous dire que cette négociation intéressait beaucoup nos pêcheurs et que j'ai eu de très nombreuses réunions dans mon bureau, parfois houleuses d'ailleurs, avec le comité des pêches de Basse-Normandie. Donc là, les enjeux économiques étaient immédiats. Je vais prendre un autre exemple. Si vous prenez la zone économique au large des terres australes françaises, domaine considérable, vous trouvez la fameuse légine australe, qui est un poisson dont la chair est extrêmement recherchée, et nous avons mis au point, enfin, nous avons conclu un accord de coopération avec l'Australie pour mettre en commun nos moyens afin de sanctionner la pêche illégale. Et il nous est arrivé à plusieurs reprises de dérouter des navires pirates, entre guillemets, en tout cas qui pratiquaient la pêche illicite et qui ont été déroutés vers la Réunion. Donc bien évidemment, on ne peut pas tout faire, bien évidemment, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des espérances, mais on fait des choses dans nos zones économiques, bien évidemment, c'est très difficile de les chiffrer. Mais de toute façon, je dirais que nous n'avons pas le choix, parce que si nous ne créons pas ces zones, si nous n'activons pas ces zones, nos voisins le feront et l'ont déjà fait. Donc, en quelque sorte, on s'appauvrirait d'une certaine façon inutilement. Voilà. Donc,
je vous remercie. Monsieur Dorcival.
Merci. Monsieur l'ambassadeur, merci de nous entraîner dans ce domaine maritime qui, passionnant tel qu'il est en réalité peu familier des Français et depuis bien longtemps. Je vais prolonger les questions de mon confrère Jean-Robert Pitt sur deux points. D'abord sur le point du droit. Est-ce que ce que vous appelez le plateau continental correspond à ce que nous appelions autrefois, ou peut-être encore, les fameuses eaux territoriales ? Deuxièmement, les zones économiques dont vous avez décrit les délimitations, quelles sont les libertés en matière de souveraineté que nous avons dans un cas et dans l'autre ? Quand nous avons regardé tout à l'heure votre carte de la Méditerranée par rapport à l'océan Atlantique ou Pacifique, on voyait très bien que la Méditerranée était entièrement bleue. Ça voulait dire qu'elle était entièrement découpée en zones économiques. Or, dans l'affaire des migrants, par exemple, nous voyons bien que les nations ne sont pas dans la même situation juridique à l'égard de tel bateau, de tel esquif, etc., dans la traversée de la Méditerranée. Donc, qu'en est-il ? Quelle liberté avons-nous dans telle ou telle délimitation ? Enfin, en ce qui concerne Saint-Pierre et Miquelon, qui est un exemple tout à fait spectaculaire, on a négocié un corridor qui, sur la carte, est tout de même assez long, mais très étroit. Est-ce que la délimitation de ce corridor était un enjeu clé pour nos pêcheurs ? Est-ce que ce corridor n'est pas constamment traversé par des bateaux de pêche qui ne sont pas français ou sous notre pavillon ? Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Merci beaucoup. Donc, en fait, ça fait trois questions. Je vais commencer par la question sur le plateau continental. Non, le plateau continental ne se confond pas avec la mer territoriale. La mer territoriale est un espace sur lequel l'État côtier exerce une souveraineté pleine et entière, sous réserve de la reconnaissance du droit de passage inoffensif au profit des navires étrangers. Bien. Le plateau continental, lui, commence au-delà des 12 000. Donc, il commence à la limite extérieure de la mer territoriale et il s'arrête, en principe, à 200 000. Bien. Mais aujourd'hui, le plateau continental jusqu'à 200 000 est absorbé, se confond avec la zone économique exclusive, qui est un concept qui a vu le jour après, 20 ans après le concept du plateau continental, puisque la zone économique comprend à la fois le sol et le sous-sol marin et la colonne d'eau, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, jusqu'à 200 000, le plateau continental a été absorbé par la zone économique. En revanche, le plateau continental retrouve tout son intérêt au-delà de 200 000. Parce que la Convention sur le droit de la mer dit qu'au-delà de 200 000, certains États peuvent revendiquer un plateau lorsqu'il y a un plateau au sens géographique du terme, c'est-à-dire lorsque le rebord externe de la marche continentale se situe au-delà des 200 000. Mais pour éviter les abus, tout d'abord, on a créé une commission des limites du plateau continental, qui est un gouvernement d'experts à l'échelle mondiale, qui rend des recommandations, mais en fait des recommandations qui ont force obligatoire. Et cette commission des limites du plateau continental a été créée par la Convention de Montego Bay pour instruire les demandes d'extension du plateau continental au-delà de 200 000. Ça, c'est la première limite, le premier garde-fou. Le second garde-fou tient au fait qu'il y a une limite extérieure du plateau continental pour éviter que les grands fonds marins internationaux gérés par l'autorité des fonds marins ne se réduisent comme peau de chagrin, dont ces limites maximales sont soit 350 000 des côtes, soit l'isobate de 2500 mètres. Voilà pour le plateau continental. J'en arrive à votre deuxième question. Tant sur le plateau continental que sur la zone économique exclusive, l'État côtier ne dispose pas d'une souveraineté pleine et entière, à la différence de ce qui se passe pour la mer territoriale. L'État côtier dispose de droits souverains à des fins économiques. En d'autres termes, l'État côtier a la prérogative exclusive d'explorer et d'exploiter les ressources de la zone, qu'il s'agisse de ressources halieutiques ou de ressources minérales, qu'il s'agisse des ressources de la colonne d'eau ou des ressources du sol et du sous-sol. Par ailleurs, l'État côtier a juridiction sur la mise en place d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages, et il a de larges prérogatives en matière de recherche scientifique. Mais, et c'est très important, en ce qui concerne trois des libertés de la haute mer, la liberté de navigation, la liberté de survol et la liberté de pose de câble ou de pipeline, ces trois libertés sont maintenues et existent aussi bien pour la zone économique que pour la haute mer. Donc vous voyez, différence de régime très significative entre mer territoriale d'un côté, où l'État côtier a une souveraineté pleine et entière, et les espaces maritimes dans lesquels l'État côtier ne dispose, je dirais, que de droits souverains finalisés, principalement d'ordre économique. Et j'en arrive à la troisième question que vous avez évoquée concernant Saint-Pierre et Miquelon. Alors, je vous confirme qu'à l'époque, dans les années 80 et début des années 90, la pêche était un très réel enjeu. Et puis, les ressources, malheureusement, se sont largement taries depuis. Donc, les enjeux en matière de pêche ne sont plus du tout les mêmes que ce qu'ils étaient au début des années 80, lorsque les eaux au large de Terre-Neuve étaient encore pleines de morues. Les choses ont changé. Mais ce que je dirais, c'est que ce corridor n'a pas été négocié. Ce corridor, il résulte de la sentence arbitrale de 1992. Donc nous avons dû, bien évidemment, en état respectueux du droit international, appliquer cette sentence, respecter cette sentence. Mais pourquoi cette sentence ? Eh bien parce que nous n'avions pas réussi à nous mettre d'accord par voie de négociation, tant les points de vue initiaux étaient éloignés l'un de l'autre. Alors, effectivement, ce corridor est un peu étrange et très étroit, mais je vous confirme, premièrement, qu'il n'y a plus beaucoup d'activités de pêche dans la zone et que, pour le moment, il n'y a pas d'incursion étrangère particulière dans le corridor, à ma connaissance. Merci beaucoup.
Bon, merci. Si je puis ajouter, ayant été mêlé de très près à tout ça, En ce qui concerne la pêche, j'ai passé mon temps à négocier avec les Canadiens en leur disant « Il faut nous laisser pêcher les morues, vous les laissez mourir de vieillesse ». C'était inexact, il n'y a plus de morues. En ce qui concerne la délimitation maritime au large de Saint-Pierre et Miquelon, le tribunal arbitral a repris la solution monégasque, qui était une solution, à mon avis, malheureuse, qui a été reproduite alors qu'on aurait pu espérer autre chose, mais ce n'était pas une négociation, c'était une décision d'un tribunal arbitral qui résolvait la question. Alors, il ne reste plus que quelques coquilles Saint-Jacques, en fait, dans le coin, à ma connaissance. Bien, Monsieur Collomb.
Merci de nous avoir initié à la complexité d'un problème où le droit manifeste une flexibilité assez grande. Je voudrais vous poser une question un peu de méthode juridique. Je ne connais rien à ces problèmes-là, mais vous nous avez parlé d'arbitrage, vous avez parlé de cour, vous avez parlé même du tribunal du droit de la mer. En fonction de quoi va-t-on dans ces différentes formes de règlement juridique des problèmes et quelle est l'expérience en ce qui concerne les avantages ou inconvénients des différentes voies juridiques qui s'ouvrent pour régler les cas où on ne peut pas arriver à se mettre d'accord ?
Donc, merci, monsieur l'ambassadeur.
Merci beaucoup. Oui, c'est une question extrêmement judicieuse. Alors, tout d'abord, bien évidemment, je dirais que la voie royale reste la négociation. On essaye de négocier. Parfois, la négociation peut durer 5 ans, 10 ans, voire plus. Et puis, si vraiment on réalise que la négociation ne permet pas d'aboutir parce que les points de vue ne se sont pas suffisamment rapprochés pour permettre l'accord, là, je dirais qu'il y a deux possibilités. Ou bien laisser le différend pendant, c'est-à-dire que le différend restera pendant des dizaines d'années, voire des centaines d'années. S'il n'y a pas d'enjeux économiques ou environnementaux, je dirais pourquoi pas. Au moins, les deux États ne prendront pas le risque de perdre. Si en revanche il y a des enjeux plus précis, là je dirais qu'à terme, le recours à une tierce partie devient certainement inévitable, à la fois pour des raisons économiques et aussi pour des raisons politiques, parce que pour éviter des tensions, des contrôles provoquant des incidents, etc. Alors là, il y a effectivement le choix. La première option, c'est l'arbitrage. Je dirais que l'avantage de l'arbitrage, c'est la souplesse, puisque ce sont les États qui définissent les règles applicables dans le compromis. Et c'est, je dirais, que rapidité relative. La sentence arbitrale est rendue généralement dans les 2 ou 3 ans qui suivent la conclusion du compromis d'arbitrage. L'inconvénient de l'arbitrage, du moins aujourd'hui, alors que la jurisprudence de la Cour s'est durablement stabilisée depuis la fin des années 90 et le début des années 2000, c'est l'imprévisibilité. Donc je dirais que la procédure devant la Cour est peut-être plus lourde, mais qu'elle peut-être offrir, aujourd'hui du moins, grâce à cette jurisprudence qui s'est consolidée, confortée au fil des ans, elle peut-être offrir davantage de sécurité que le recours à l'arbitrage, sachant qu'il y a désormais quand même une douzaine d'arrêts de la Cour internationale de justice, dont les derniers vont tous dans le même sens. Alors bien sûr, il subsistera toujours une part d'incertitude, mais c'est quand même important de savoir qu'il y a tout un corpus de règles auxquelles, a priori, la Cour ne dérogera pas. Reste le tribunal international du droit de la mer de Hambourg, qui est une autre possibilité. En droit, les deux parties peuvent également se mettre d'accord pour saisir le tribunal de Hambourg. Le Bangladesh et le Myanmar l'ont fait, mais je dirais que jusqu'à présent, le tribunal international de Hambourg n'a rendu qu'un seul arrêt en matière de délimitation maritime, ce qui est quand même encore peu, même si cet arrêt, je dois dire, s'inspirait très étroitement de la jurisprudence de la Cour internationale de justice. Mais dernier point concernant la France, qui ne reconnaît pas, enfin, qui n'a pas souscrit au fameux article 36.2, qui n'accepte pas par avance la juridiction obligatoire de la Cour, pas plus qu'elle n'accepte par avance la juridiction du tribunal, il faut être deux. En d'autres termes, les deux parties doivent être d'accord pour saisir la Cour, pour saisir le tribunal, ou bien sûr pour conclure un compromis d'arbitrage.
Si je puis ajouter quelque chose, dans le cas de Saint-Pierre et Miquelon, eh bien, la France aurait préféré aller à la Cour internationale de justice. Le Canada n'a pas voulu. Et on a fini à l'arbitrage. Si on avait été à la Cour, on n'aurait pas eu le corridor que l'on a eu, très probablement. Il faut être deux. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire perpétuel.
Et merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, merci d'abord de cet exposé sur un sujet relativement technique et sophistiqué qui nous a beaucoup éclairé. Je voulais poser une question. Vous avez dit à la fin de votre exposé que c'était au fond plus un métier d'artiste que de juriste. Est-ce que ce n'est pas de plus en plus vrai? Parce que les questions du réchauffement, par exemple, de l'apparition de nouveaux territoires maritimes, n'ont-ils pas créé des questions nouvelles, des sujets qui réclameraient des arbitrages? Est-ce que vous pourriez en donner des exemples si c'était le cas? Et puis je me posais aussi une question à propos de deux territoires dont vous avez parlé, c'est-à-dire l'océan Indien, en disant en tous les cas de cette vaste zone qui va de la Tanzanie à la Réunion, où il y a une multitude, où il y a une Polynésie considérable, ou dans le sud-ouest de l'océan Atlantique, où là aussi nous avons une multitude de micro-États, de petites îles, voire des îles divisées, comme Haïti ou Dominique. Comment les questions se posent-elles à ce moment-là? Comment peut-on identifier, par exemple, autour d'Haïti, ce qui appartient à Dominique et ce qui appartient à la France? Comment peut-on fixer des territoires? Et ça doit se compliquer encore en plus lorsqu'on est en face d'îles comme Saint-Jean-on-Kitts ou Saint-Barthélemy ou Saint-Martin, où là, on est pratiquement dans des lieux qui se croisent. Bref, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ces difficultés, peut-être nouvelles, qui sont soumises à votre arbitrage?
Écoutez, volontiers, je vais peut-être commencer par le deuxième point. Je dirais qu'en définitive, la taille des territoires importe assez peu, puisque quelle que soit la taille, on va retrouver les mêmes questions et les mêmes règles applicables. Si je prends le cas de Saint-Martin-Sint-Martin, qui a donné lieu à la signature d'un accord tout récemment, si je ne me trompe, eh bien, dans le cadre de cet accord, on avait, pour délimiter la frontière maritime, on a recouru à l'équidistance, qu'on a parfois aménagée, mais ça peut se trouver n'importe où, parce qu'il y avait des rochers et au fond des couvrants au large de Saint-Martin-Saint-Barthélemy. Mais je dirais que ça n'a pas eu un impact décisif et ça n'a pas créé de difficultés juridiques spécifiques. Là, comme je le disais tout à l'heure, où il y a une vraie difficulté, c'est sur l'étang aux huîtres, donc pour lequel il y a une revendication néerlandaise sur la totalité des eaux de l'étang que nous ne reconnaissons pas, mais on a pu faire abstraction de cette revendication en faisant démarrer, je dirais, en plaçant le point de départ de la frontière maritime suffisamment au large pour faire abstraction de l'étang aux huîtres. Donc, en définitive, je dirais que le territoire, soit petit ou grand, ça n'a que relativement peu d'incidence sur la complexité ou non des questions juridiques à traiter, parce que précisément l'équidistance fournit un critère objectif qui est valable, quelle que soit la dimension du territoire. En ce qui concerne le réchauffement climatique, je dirais que pour le moment, ça n'a pas eu un impact immédiat sur la délimitation et que la question sera hélas, peut-être un jour, celle de la disparition de certaines îles ou de certains territoires, y compris, ou de certains archipels qui sont des États. Je pense au Tuvalu, je pense à Kiribati, on peut aussi penser aux Maldives. Que deviendront ces pays si le niveau des océans monte ne serait-ce que d'un mètre ou deux mètres? Et là, ça pose une toute autre question de droit international que celle de la délimitation des frontières maritimes, qui est la question des réfugiés climatiques, qui fera peut-être un jour l'objet de nouvelles règles ou d'une convention internationale, mais ce n'est pas encore le cas. Merci beaucoup.
Si je puis compléter la question, si Tuvalu disparaît, est-ce que la France n'a pas droit à une portion de mer plus grande que celle que nous avons négociée à l'heure actuelle?
Je pense qu'il ne faut pas se poser la question pour le moment, monsieur le Président.
Merci. Monsieur Leroy Ladurie.
Allumez-le ce micro.
Le micro.
Allez-y.
Vous n'avez pas parlé, me semble-t-il, de la bétonisation de certains rochers par la Chine. Ah. Et qui forment des îles destinées à créer peut-être des conflits susceptibles d'être recouverts par la montée de la mer. Enfin, il y a un tas d'aspects.
Monsieur l'ambassadeur.
Oui, donc je n'ai pas parlé de cette question, qui est effectivement une question nouvelle et qui d'ailleurs soulève des problèmes juridiques et politiques aussi, extrêmement complexes, pour la raison très simple, c'est qu'elle n'intéresse pas la France, du moins pour le moment, puisque nous n'avons pas d'espace maritime à délimiter au large des Spratleys, des Paracels ou de Scarborough. Voilà.
Je vous remercie. Monsieur Casanova.
Merci, Monsieur le Président. Dans votre très remarquable exposé, j'ai compris que Monaco-sur-Mer était plus, grâce à la bienveillance de Napoléon III, était bien plus étendu que Monaco-sur-Terre. Mais j'ai noté la remarque du Président Guillaume qui avait l'air de regretter ce compromis. Compromis qui a dû être passé entre le gouvernement français et le ministre d'État de Monaco, qui est un fonctionnaire français. Et qu'est-ce qu'il y a de... qu'est-ce qui est critiquable dans ce compromis ?
Je parle sous le contrôle du président. Écoutez, pour être tout à fait honnête, et d'ailleurs j'ai mentionné Monaco dans mon propos liminaire, parce que j'étais présent aux côtés du président Guillaume lorsque cet accord a été conclu, je dirais qu'il y avait eu un accord au plus haut sommet de l'État et au plus haut sommet des deux États, pour que l'on déroge de manière significative à l'équidistance pour permettre à la principauté monégasque de disposer d'un vaste plateau continental au large de ses côtes. Ça, c'était 1984. Et donc, nous n'avions guère le choix. Alors, il y a eu quand même une déclaration qui précise que, bien évidemment, cette délimitation nouvelle n'aura pas d'incidence sur les droits exercés par nos pêcheurs de part et d'autre. Il y a une disposition en ce sens, quand même, de maintien, protection, garantie des droits acquis. Mais il est vrai que... lorsque nous avons négocié, encore une fois, sur instruction très précise, cet accord, nous étions parfaitement conscients du fait que cet accord s'expliquait pour des raisons d'opportunité politique, de bon voisinage, mais absolument pas, n'était pas fondé en droit. Jamais le droit n'aurait reconnu une dérogation aussi vaste à la principauté de Monaco. Et malheureusement, comme le soulignait le président Guillaume tout à l'heure, quelques années plus tard, eh bien, le tribunal arbitral, dans l'affaire Saint-Pierre et Miquelon, a cru bon de s'inspirer de cette formule pour retenir, là, malheureusement, une solution juridiquement contraignante, en s'inspirant de cet accord qui, encore une fois, ne s'expliquait que par des raisons politiques.
Je vous remercie. Monsieur Goudemet.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup de ce très bel exposé. Je me permets de revenir sur un cas particulier peut-être que vous n'avez pas mentionné, qui est Clipperton. Et je relis ceci à la question, peut-être est-ce un souvenir inexact, mais je croyais que la délimitation d'une zone économique était subordonnée à l'existence, pas seulement d'une population, ce qui n'existe pas à Clipperton, mais d'une activité économique. Et je me souviens, au Conseil général des mines, une délibération qui visait à délivrer un permis plus ou moins fictif d'exploitation pour permettre précisément la délimitation d'une zone économique à Clipperton alors qu'il n'y avait aucune perspective d'exploitation économique. Alors je voudrais savoir simplement si ce jumelage zone économique, activité économique à terre existante existe toujours, ce qui expliquerait que dans les décrets récents que vous avez rappelés, il ne soit pas fait mention, sauf erreur de ma part, de Clipperton, qui est quand même un îlot important.
Oui, alors sur Clipperton, deux points. Je ne l'ai pas mentionné pour une raison simple, c'est qu'il n'y a, nous n'avons pas de voisins avec Clipperton. En tout cas, nous n'avons pas de voisins suffisamment proches pour que nous devions procéder à une délimitation. Nous avons un voisin lointain qui est le Mexique, et comme vous le savez, le Mexique a pendant longtemps revendiqué l'appartenance de Clipperton, et le différend a été tranché au début des années 30, si je ne me trompe, par une sentence du roi Victor Emmanuel III d'Italie qui reconnaît l'appartenance de Clipperton à la France. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en ce qui concerne Clipperton, nous avons créé une zone économique exclusive, une zone économique au large de Clipperton dans les années 70, à la fin des années 70, en même temps que nous activions des zones économiques au large des autres départements, collectivités d'outre-mer. Donc, il y a une zone économique française au large de Clipperton de 200 000 et cette zone, donc, n'est pas subordonnée à l'exercice effectif d'activités économiques sur l'atoll de Clipperton. Mais bien évidemment, pour nous, Clipperton est une île comme une autre et qui, à ce titre, en application de l'article 121 de la Convention de Montego Bay, a droit à une zone économique et à un plateau continental.
Voilà. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions ? Il n'y en a pas ? Bien, écoutez, monsieur l'ambassadeur, il me reste à vous remercier très vivement à la fois pour cet exposé, pour les réponses que vous avez fournies aux questions qui vous ont été posées et à vous souhaiter un bon retour à Oslo. Merci.